dernier rêve avant la nuit? Karine Delphini.
Bonsoir. Tout passera par le regard. Et le thème est large. Ce qu'on voit, ce que ça implique à l'intérieur de soi, à quoi ça renvoie, ce qu'on crée à partir d'une image, d'où est-ce que ça part? Regardons et imprégnons-nous des mots de ces différents auteurs suisses qui nous donnent à contempler, que ce soit la nature, l'amour, la beauté ou encore l'enfance qui revient dire ses joies et ses peines. Face à moi, en régie, Marie-Claude Cudery et autour de nos histoires, des chansons, toutes choisies par Yves Ellen. Et c'est avec le chanteur suisse François V que tout commence.
Je suis accro du macro de mon appareil photo. J'aime les détails, j'aime ce détail. Je me tends, me détends pour trouver le bon moment, la pose idéale, le grain qui emballe. Zoom avant, zoom arrière sur la laine d'un pull. Mohair, madame, combien de mailles faut-il pour faire un tel chandail? Je nomme mes copes, ne serait même la photo. Couleur, que dites-vous au passage d'un entretien plus tard? J'aime les détails, oui je suis infatigable. Malgré mon tout jeune âge, je laisse le tout au hasard. Elle se tourne, s'en retourne, mes saisons sur ses contours. J'aime les détails, j'aime ce détail. Je m'applique dans l'optique d'un retour panoramique. Mon cœur n'a d'égal. Et le flou s'installe, zoom avant zoom arrière, elle revient son pull. Mohair, allons compter ses mailles. Je vous prie, suivez le couloir dans une chambre verte. On a fait nos emplettes, comptant maille après maille. Ce délicieux chandail, j'aime les détails. Oui, je suis infatigable. Malgré mon tout jeune âge, je laisse le tout au hasard. J'aime les détails, oui je suis infatigable. Malgré mon tout jeune âge, je laisse le tout au hasard. De quoi vous gâchez l'envie pour un simple détail? Madame me remballe. Je lui ai dit, ce vernis n'est pas des plus assortis au bleu de vos sandales, ni au vert du chandail. Zoom avant zoom arrière, rebondir, je sais le faire dans un cartable noir. J'ai glissé la plus belle image, lui offrant le poster d'une maille en laine. Mohair ajoutant, chère madame, vous m'êtes indispensable. Car j'aime vos détails, oui je suis infatigable. Malgré mon tout jeune âge, je laisse le tout au hasard. J'aime les détails, oui je suis infatigable. Malgré mon tout jeune âge, je laisse le tout au hasard.
Les détails donnés par François V, artiste suisse, tout comme les auteurs ce soir dans ce dernier rêve avant la nuit. Il est tout beau, tout neuf, bien emballé, le livre de Catherine Gaillard-Sarron, paquet surprise. Il suffit de le feuilleter pour y voir défiler une bonne vingtaine de nouvelles. Alors nous allons défaire ce joli nœud rouge sur la couverture pour en découvrir une. Et ce soir, on a dit l'importance du regard sur les choses. Beauté volée, c'est le titre de ce récit. Une fois encore, il revenait bredouille de cette chasse singulière, gardée pour certains, qui faisait ses délices et son job depuis 30 ans. À aucun moment, aujourd'hui, il n'avait été tenté de dégainer son réflexe numérique hyper sophistiqué. Rien, absolument rien, ne lui avait semblé digne de son objectif, ou plutôt de son œil hypercritique. Voilà plusieurs jours que son appareil pendait lamentablement à son côté, lourd, inutile. Pas un cliché ou une photo qui lui permit de se rassurer sur sa capacité à voir ce que, jusqu'à ce jour, il se vantait de savoir capturer, la beauté, et la beauté féminine en particulier. Que lui arrivait-il ? Se pouvait-il que ses yeux fussent saturés de beauté ? Qu'il en fût repu, écœuré ? Une telle chose s'avérait-elle possible avec le temps ? Avait-il trop photographié, banalisé, pour qu'il ne la vît plus telle qu'elle était ? Ce n'était pourtant pas faute de photographier les femmes sous toutes les coutures, mais inexplicablement, il ne parvenait plus à leur trouver cette grâce, cette fraîcheur ou ce piquant que durant si longtemps il avait su capter et sublimer. Il semblait que tout éclat eût disparu de leur visage devenu fade et terne. Il s'interrogeait autant sur ce qu'il éprouvait que sur ce qu'il voyait, osant à peine formuler la terrible question qui lui trottait dans la tête. Les femmes étaient-elles donc toutes devenues moches ? Toute beauté avait-elle disparu sur la terre que même les paysages les plus superbes lui apparussent voilés de gris et comme empoussiérés ? Était-ce la pollution, le smog ? N'y avait-il plus une seule femme télégénique en ce bas monde dont la peau accrocha la lumière et resplendit telle la soie sous les spots ou le soleil de mai ? Lui-même, envahi par un sale sentiment à force de broyer du noir, se trouvait une mine de papier mâché et de plus en plus laid. Un soir qu'il contemplait des clichés le représentant, il les trouva si déplaisants qu'il les brûla dans la cheminée de son salon. Et un instant, devant la splendeur des flammes virevoltantes, il crut retrouver ce qu'il cherchait, ou plutôt ce qu'il avait perdu. Et il courut chercher son appareil photo dans l'espoir de fixer l'éphémère beauté. Mais quand il revint, il ne restait plus qu'un amas de cendres grisâtres dans l'âtre charbonneux. Et cette vision le ramena soudain à son père, décédé, et au crématoire où son corps avait été incinéré. Une étrange idée le traversa. Était-ce la poussière de la mort qui se déposait devant ses yeux ? La poussière d'un monde qui n'en finissait pas de finir ? Était-ce lié à sa propre peur de la mort ? À son père ? L'urne qui contenait ses cendres, dont il ne savait que faire, était toujours sur une étagère de son bureau. Unique héritage de cet intermittent de la paternité qui avait si mal joué son rôle. Et devant les clichés racornis et carbonisés, il eut bizarrement l'impression de contempler les décombres fumants de sa vie. Il se sentit mal subitement. Ce feu éteint, ses cendres, son cafard, la brume, tout ce gris le déprima. D'un geste rageur, il jeta son appareil inutile sur le divan et s'enfuit dans l'obscurité vitreuse. Il erra de longues heures dans la ville rembrunie, effrayé par la noirceur de ses pensées. Où était passée la lumière de son regard ? Les couleurs, la beauté qui le ravissait depuis tant d'années ? Il repensa à son géniteur qu'il connaissait si mal et qu'il avait tout juste reconnu, et se rendit compte que ses problèmes coïncidaient avec la date de son décès, il y avait 2 mois. C'est depuis là que les choses étaient progressivement ternies, jusqu'à en perdre tout lustre ces derniers jours. Cela l'avait-il affecté au-delà de ce qu'il imaginait? Est-ce parce que son père ne le voyait pas qu'il était devenu photographe? Voir sans être vu était une de ses qualités. Qu'allait-il devenir s'il n'était plus capable de discerner et de capturer la beauté? Il était encore loin de la retraite. Écrire un livre, peut-être. Réinventer un monde de beauté et de couleurs avec seulement du noir et du blanc. Un roman qu'il intitulerait « À toutes les femmes que j'ai photographiées avant ». Non, il ne voulait pas réinventer la beauté. Il voulait la contempler, la saisir, la fixer sur ses rétines et pour l'éternité. Il ne savait ni ne voulait faire autre chose. C'est l'esprit tourmenté par ces sombres réflexions que vers 2 heures du matin, il regagna son domicile en proie à des crampes d'estomac. Il prit un antispasmodique avant de se coucher et s'endormit un sommeil sans rêve. Le lendemain matin, la nuit portant conseil, il prit rendez-vous chez le premier ophtalmologue de l'annuaire. Avant de se jeter du plus haut pont de la ville, il semblait raisonnable de faire un contrôle de sa vue. Après tout, son œil était son outil de travail. Qui sait, le praticien pourrait peut-être lui refaire une virginité oculaire comme on refaisait un hymen. Son regard redeviendrait alors vierge de toute laideur et de toute beauté, lui permettant de voir d'un œil neuf tout ce qui l'entourait, comme s'il venait au monde. Après 2 opérations, qui sèchent le nerf sur 1 mois, Régis sortit enfin du brouillard dans lequel la cataracte l'avait plongé, altérant sa vision de la réalité. Ce fut une véritable renaissance, une redécouverte extraordinaire des couleurs de la vie et de l'éternelle beauté des femmes et de la nature. Non, ce n'était pas la poussière de la mort qui obscurcissait son regard, mais la poussière du temps, celle qui, au fil des ans, blanchissait les cheveux et opacifiait les cristallins.
Waiting his posters on the wall, waiting to hear it play. Like these lists and calls, waiting to be free. You stop and but can we
Dernier rêve avant la nuit.
La vie s'est remplie d'images, de très vieilles photos. Il y a les journaux en première page, les belles au labo. Pas le temps de développer, qu'on nous dit derrière, le film a été voilé. Faudra bien s'y faire. La vie s'est remplie d'images, de comptes à rebours. Un album de 800 pages, c'est beaucoup trop court. On prend pas le temps de poser, que déjà derrière, le jour vient de se coucher, y a plus de lumière. La vie s'est remplie d'images, de ports, de bateaux, de souliers peints au cirage qui résistent à l'eau. On a eu beau les cirer, les brosser derrière, ils ont connu les marées. Les coques à l'envers. La vie s'est remplie d'images, de boîtes à gâteaux, où les souvenirs s'étagent, canines et couteaux. On pourra tout recompter, en faire l'inventaire, parfois même la refermer, apprendre à se taire. La vie s'est remplie d'images, d'aller et de retour. Un album de 800 pages, c'est beaucoup trop court. On prend pas le temps de regarder, que déjà derrière, un clap de fin est lancé. On tourne la dernière.
D'abord une chanteuse suisse, Lena Fennel, et puis Romain Didier, La vie s'est remplie d'images. Et que de beaux tableaux nous avons chacun en nos cœurs. L'écrivain Raphaël Aubert a été puisé dans les merveilles de la nature, et tout particulièrement les forêts. Il a publié aux éditions de l'Air, Sous les arbres et au bord du fleuve. Et j'ai pris quelques passages de ce livre. Beaucoup d'images dans ses mots. C'est un livre qui se regarde. Il y eut un temps de ma vie où la forêt fut tout mon royaume. La forêt au-dessus, avec la vallée et les hommes en bas. Aussi loin que je me souvienne, je revois la vieille maison sur les hauts, les champs qui l'enserrent au milieu des bois noirs, maigre prairie éclairée seulement par quelques saules et un tilleul centenaire. La forêt, j'en sais les rites, j'en possède les secrets qui ouvrent sur d'autres mondes, monde des signes, des feux et des présages. univers invisible, mais qui affleure pourtant comme les récifs à l'approche de l'île. Présence dans l'absence, pour qui sait la déchiffrer. Cette rencontre, car c'en est une, profonde, décisive, m'a modelée à jamais jusqu'au plus secret de mon être. Braise aucunement éteinte, brûlure à mesure plus vive au fil du temps. Il suffit d'un croassement de corbeaux à ma fenêtre, son ombre noire comme en repentir dans l'azur. Il suffit du flamboiement de la toison d'un renard entreaperçu au bord de la route, dans le pinceau des phares de la voiture, pour que tout remonte, revienne. Il n'est pas vrai qu'au fil du temps l'enfance s'efface, non plus qu'avec l'âge ses blessures. La mort dans la forêt, il devait m'être donné de la rencontrer dans mon enfance. Par un matin d'hiver, sur un chemin qui s'étire à flanc de coteau pour rejoindre la route du col, passant à un peu moins d'un kilomètre de la maison. L'animal était couché sur le flanc, splendide dans la neige. Il s'agissait d'un jeune renard à l'épaisse toison couleur de feu. Quand nous nous approchâmes, il ne broncha pas. Il était mort, mais depuis peu de temps sans doute, et le froid lui conservait toute l'apparence de la vie. Aucune blessure n'était visible. Il semblait simplement dormir. Pourquoi était-il mort? Que s'était-il passé? J'étais à la fois triste et émerveillée. J'aurais voulu caresser le petit renard, toucher son ventre blanc, le ramener à la maison, ce qui évidemment était impossible. Aujourd'hui encore, il me suffit de fermer les yeux un instant pour revoir sa fourrure rousse éclatante sur le blanc funèbre de la neige. Parce que le chemin était long et la pente rude pour le petit enfant que j'étais, lorsque nous remontions à la maison, ma mère et moi, nous nous arrêtions toujours quelques instants au milieu de la forêt afin de nous reposer et reprendre haleine. Et le lieu où nous faisions halte était toujours le même, à peu près à mi-chemin du village, au fond de la vallée et de la maison sur les hauts. C'était à peine une clairière, une sorte d'éclaircie plutôt, laissant deviner le ciel blanc entre les cimes sombres des arbres. À cet endroit, et c'est sans doute pourquoi ma mère l'avait choisi, le sentier suivi jusque-là, une sorte de raccourci s'élevant droit face à la pente, rejoignait le véritable chemin. Une ancienne piste de débardage serpentant paresseusement à travers la forêt. Dernière étape avant de retrouver la vieille maison. Auparavant, pour atteindre la forêt, nous avions traversé plusieurs pâturages semés de bosquets et coupés de murs de pierres sèches à moitié écroulés. Entre les racines des arbres, il y avait plusieurs grosses pierres émergeant de terre sur lesquelles nous nous asseyions pour nous reposer. Et l'une d'entre elles était plus oblongue que les autres, vaguement triangulaire, sa partie large plus haute que sa partie étroite. On eût dit la tête d'un cheval. Impression renforcée encore par la mousse blonde dont elle était recouverte en partie, qui pouvait suggérer le haut de la crinière retombant entre les oreilles et sur les yeux. Cet endroit, qui n'était pas même une trouée, que nul n'eût remarqué, repère invisible à tout autre que ma mère et moi sur notre route, je l'avais tout naturellement baptisé « la tête de cheval ». C'était devenu pour moi plus qu'un jalon, davantage qu'une étape. Dès que nous y parvenions, je cherchais des yeux la tête de cheval pour m'assurer qu'elle était toujours là, qu'elle m'attendait, comme chaque fois. Car pour moi, ce n'était bien sûr pas une simple pierre, un caillou un peu plus imposant que les autres, mais un vrai cheval, bien vivant. Presque un ami, un frère qui me faisait signe au milieu de la forêt. Alors, oubliant ma fatigue, dans un ultime effort, je courais pour la rejoindre et presque timidement, je m'approchais pour caresser la mousse de la pierre. Ainsi que je l'aurais fait avec un véritable cheval tendant ses naseaux par-dessus la barrière de l'enclos. La mousse était étonnamment douce. À cet instant, j'en sens encore la fraîcheur humide et soyeuse sous mes doigts. Comme je revois les hauts fûts des sapins tout autour, leur écorce grise, leurs cimes noires touchant le ciel, les toiles d'araignées brillant dans la lumière de fin d'après-midi, le vieux chemin de terre, quelques mètres plus haut, à flanc de pente. Alors d'un coup, toute la fatigue accumulée depuis que nous avions quitté le village, la dureté du chemin, tout cela était oublié. Et lorsque venait le moment de nous remettre en route, c'est sans rechigner, sans une plainte, que je mettais ma main dans celle de ma mère pour marcher bravement à ses côtés. Bien des années plus tard, j'ai repris le chemin de mon enfance, remettant mes pas dans ceux du petit garçon avec sa mère sous les sapins. Je n'ai pas eu à chercher, j'ai retrouvé sans peine l'endroit de nos haltes, tant il demeure inscrit au plus profond de ma mémoire. Je crois que je pourrais fermer les yeux et sans même tâtonner m'y diriger tout droit. La pierre aussi était toujours là, mais toute grise et sans plus de mousse, n'évoquant que bien imparfaitement une tête de cheval, bien moins que dans mon souvenir, et surtout, elle paraissait si petite. À l'image de l'enfant que j'étais alors, lorsque je caressais mon ami le cheval, ne rêvant rien tant que de l'enfourcher pour qu'il m'emportât jusqu'à la maison. La forêt de mon enfance, avec ses sortilèges, ses animaux et leurs mystères, avec ses chevaliers en armure, bien sûr, n'existe plus. Et depuis longtemps, je sais que les chemins aboutissent toujours quelque part. Qu'au-delà de la barre de la brume, tout au fond, il y a encore des arbres et la forêt. Il y a la vallée avec les hommes, et bien d'autres vallées encore et d'autres hommes. Mais des rencontres anciennes, je n'ai rien oublié. Si la forêt a cessé de nourrir mes peurs, elle continue d'alimenter mes rêves, en me laissant entrevoir les autres mondes dont elle constitue l'accès, dont elle est la porte pour qui sait l'ouvrir. Tout ce que la forêt a suscité dans mon enfance, ce qu'elle a fait naître en moi, continue de vivre, intact, au plus profond. Et je puis toujours l'éprouver avec une égale force, une semblable présence. Et si les animaux de mon enfance se rappellent périodiquement à moi, c'est peut-être pour que je n'oublie pas. La dernière fois, c'était à la nuit tombée, aux abords d'un célèbre palace lausannois donnant sur le lac. Comme je longeais l'arrière des communs pour me rendre à la brasserie de l'établissement, je vis un grand et magnifique renard à l'épaisse queue de feu. Manifestement, l'animal était un habitué des restes dont le personnel de cuisine se débarrassait dans les poubelles. Une dizaine de mètres à peine nous séparaient l'un de l'autre. Alors je me suis arrêtée et je l'ai appelé tout doucement. « Renard ! Renard, viens !» Tournant lentement sa belle tête vers moi, il s'est immobilisé et m'a regardé. Je sentais ses yeux posés sur moi et mon cœur battait à tout rompre. Je devais être autant, sinon davantage encore, intimidé que lui. Durant un long moment, nous nous sommes toisés silencieusement. Plus rien d'autre n'existait au monde. Il n'y avait plus que lui et moi. et la porte invisible s'était ouverte. Encore une fois. Night Watchman par The Duckworth Lewis Method sur la première. Puisque ce soir nos rêves portent un regard beau sur les choses, comment ne pas parler d'amour ? Le magicien des neiges, c'est un récit de Françoise Buffat qu'on trouve dans son recueil de nouvelles aux éditions Slatkin. Parlez-moi d'amour. Encore un tunnel et le train déboucha dans la haute vallée d'Engadine, au nom clair et sonnant comme clochette de traîneau. Pris dans la glace, nappée droite étincelante, les lacs se pâmaient dans les bras des mélèzes. D'épais coussins de neige s'abandonnaient sur les toits des maisons. Le froid était si vif qu'au bord de la rivière, la végétation resplendissait de givre incrusté. Un enchantement qui ramenait chaque année Sonia et ses amis. À l'hôtel où ils avaient leurs habitudes, ils retrouvèrent l'ambiance feutrée de la salle à manger. Glissant sur la mousse d'une épaisse moquette, Sonia s'avançait vers la table qui leur était réservée, saluant de ci, de là des visages familiers. Pour la plupart allemands et suisse-alémaniques, les clients de l'hôtel étaient déjà attablés quand les Français s'avisaient d'aller dîner. Passage, elle capta un étrange regard. Une tête nouvelle, se dit-elle en piquant un phare. C'était comme un rayon laser dont elle peina à s'arracher. Plus tard, quand l'homme quitta la salle à manger, elle lui trouva une carrure d'Atlante. Une femme l'accompagnait, ainsi qu'un médecin de Hambourg qui souhaita la bienvenue aux Français. Ces trois personnes étaient installées au bar et quand Sonia dut passer devant eux pour monter dans sa chambre, elle sentit une bouffée de chaleur sur sa nuque. Était-ce le regard de l'inconnu ? Le lendemain, la bande de Sonia s'élança à ski vers ces lieux aux consonances magiques. Maloya, Sils, Celerina, Pontresina. Au cœur d'un hameau englouti dans la neige, ils se réchauffèrent dans une étable transformée en auberge, puis repartirent pour goûter encore et encore la jubilation de glisser sur les lacs gelés. Elle avait oublié l'homme. Mais le soir, en allant dîner, elle fut à nouveau captée par la force qui émanait de son regard. Des yeux si profonds qu'en s'y perdant, elle sentait s'envoler sa fatigue musculaire et le poids des ans, les déceptions et les chagrins qui assombrissent la vie. De sa place à table, d'où elle voyait son profil, Sonia détailla ce visage fortement charpenté, souligné par une courte barbe blanche qui contrastait avec le hâle du teint. Cette façon qu'il avait d'incliner la tête vers son voisin, dans une pose sculpturale. Non seulement il regardait, mais cet homme-là savait écouter. À la femme qui l'accompagnait, Sonia trouva la mine revêche d'une institutrice en retraite ou d'un juge au tribunal. Plus tard, dans le salon où elle bavardait avec ses amis, Sonia sentit le regard de l'homme posé sur ses reins, puis remonter sa colonne vertébrale, redresser sa nuque, lui donnant l'envie de danser, de jubiler. Elle était comme une amphore débordant de champagne. Dans sa chambre, elle emporta les yeux brûlants de l'inconnu, sa courte barbe blanche et cette expression erratique qui l'auréolait. Auprès de son compagnon qui ronflait déjà, elle eut un coup de blues en songeant à la misère de leur vie sentimentale. L'amour, le désir et même la complicité avaient déserté leur union. S'ils vivaient encore ensemble, c'était par habitude ou par paresse. Comme deux vieilles pantoufles dépareillées qu'on garde en attendant mieux. Le lendemain soir, à la sortie d'un concert en l'église du village, elle suivit l'homme, la femme et le médecin qui cheminaient le long des maisons gadinoises, serrées les unes contre les autres comme vieilles filles frileuses. dans les champs de neige éclairés par un croissant de lune. Les pistes fuyaient à l'horizon. Ah, partir, s'enfuir. L'âme de Sonia s'envolait vers le ciel étoilé. Et une autre fois qu'elle escaladait la moraine d'un glacier, ses jambes mollirent en voyant l'homme surgir de derrière une bosse. La femme renfrognée le suivait. Et quand il croisa Sonia, d'irrésistibles fossettes creusèrent ses joues. À chaque rencontre, elle découvrait autre chose de lui. Une fois, ce fut sa voix grave de violoncelle. Une autre fois, la finesse de ses mains. Rien à voir avec des mains d'Atlante. Un jour qu'avec ses amis, ils montaient en traîneau dans les forêts du Val Roseg, elle l'aperçut à l'écart du chemin, tendant une miche de pain à un groupe de chamois. Et quand le traîneau passa à sa hauteur, il chercha Sonia sous les fourrures et son regard explosa en elle comme une incandescente boule de feu. Plantée dans la forêt avec son long manteau et sa toque de fourrure, on aurait dit la statue d'un magicien des neiges. Cette nuit-là, elle rêva de grottes et de cavernes, de filets d'eau coûtant sur son corps comme sur une harpe de verre dont il tirait des sons cristallins. Sonia s'étonnait qu'aucun de ses amis n'ait remarqué la curieuse attirance qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. L'homme au regard cherchait-il à la séduire, à l'hypnotiser ? Ce petit jeu, mais était-ce vraiment un jeu ? Dura jusqu'à la fin du séjour. À la veille de leur départ, la bande des Français s'installa près du bar et Sonia choisit un fauteuil d'où elle pouvait voir l'homme de face. Ils se dévisagèrent longuement, stupéfaits de leur audace. Et même lorsqu'ils parlaient à ses voisins, ils ne la quittaient pas des yeux, et elle non plus. Ce face-à-face insolent, ce défi qu'ils se lançaient au milieu d'une foule indifférente, tendait entre eux un faisceau d'ondes qui labourait le ventre et les reins de Sonia. C'était ludique, voluptueux, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit exister. Exister vraiment. Le désir qui émanait du regard de l'homme insufflait en ses veines une poussée de sève. La dernière nuit, l'homme assiégea les rêves de Sonia. C'était une nuit chaude et dorée, sentant l'ambre et le pain d'épices qui l'enveloppait, la prenait, la fondait, la pénétrait. Mais au moment de céder, la femme s'échappait. Pas encore. On ne s'est même pas touché, même pas parlé. Sonia aurait pu demander le nom de l'homme à la réception de l'hôtel, savoir d'où il venait, ce qu'il faisait dans la vie. Elle n'en fit rien, craignant de rompre le charme. « Je ne le reverrai jamais, je ne le connaîtrai jamais, je ne lui parlerai jamais », se disait-elle en marchant vers la gare. Et soudain, son cœur sauta. C'était lui, au bord du chemin, qui dégageait une voiture de la neige tombée durant la nuit. Un balai à la main, il se redressa. Leurs yeux se croisèrent une dernière fois. Non plus un jeu, mais un appel pressant. Pourrait-elle se passer de ce regard qui la faisait vivre ? Sonia regarda les plaques d'immatriculation de la voiture. Lubeck, RFA. Puis passa son chemin en saluant de la tête, tandis qu'il agitait son balai. « Qui est-ce, tu le connais ?» demanda son compagnon. Sonia haussa les épaules. Dans son cœur, une boule de feu tournoyait comme un gyrophare. Lubeck. Lubeck, ville natale de Thomas Mann, enserrée dans ses murailles, tortueuse comme les pensées de l'écrivain. Une ville que Sonia avait toujours rêvé de découvrir. Dans le train qui les descendait vers la plaine, elle imaginait l'inconnu arpentant les ruelles, balayé de courants d'air, courbé contre le vent, retenant son bonnet de fourrure. Devant une maison à pignons, grise et sérieuse, comme ses voisines, il s'arrêtait pour lire le pieux verset inscrit au-dessus de l'entrée. Puis il poussait la lourde porte et son pas résonnait sur les carreaux du vestibule. Ah oui, elle la connaissait cette maison si souvent décrite par l'écrivain. L'homme montait l'escalier d'une démarche sûre et posée, se retenant à la rampe de bois pour ralentir sa progression. Au premier étage, il enleva son manteau et Sonia vit qu'il portait un costume foncé avec une fleur des champs à la boutonnière. Le rêve continuait. L'homme de Lübeck entr'ouvrit la porte du salon des paysages, dont les tapisseries aux couleurs tendres et dorées s'harmonisaient avec l'étoffe des meubles laqués de blanc et les rideaux de soie. Comme la pièce était vide, il alla vers les fenêtres pour contempler les giboulées sur les pignons et les clochers. Dans la neige qui tombait de plus en plus drue, il chercha à reconstituer l'image de cet inconnu surgi de l'irréelle blancheur des lacs. Prisonnier des convenances, il avait dû se contenter de la dévorer du regard. Et en retour, elle lui avait renvoyé le désir qu'il allumait en elle. Et cet appel au secours qu'elle lui avait lancé en quittant l'hôtel, allait-il y répondre? Allait-il essayer de la revoir? L'homme, fort et droit, le magicien des neiges, se consumait de nostalgie. D'une poche intérieure de sa veste, il sortit le billet sur lequel la réceptionniste de l'hôtel d'Engadine avait écrit les noms et numéros de téléphone de la cliente française. Depuis son retour à Lübeck, il hésitait à l'appeler, craignant de gâcher la pureté de son désir. Désir dont Thomas Mann disait qu'il fallait l'aimer pour lui-même, parce qu'avec l'accomplissement, le meilleur s'en irait. Mais de là, rester spectateur du bonheur des autres, comme Tonio Kruger, caché derrière une véranda, à regarder danser les deux êtres qu'il avait le plus aimés, non, il ne serait pas un Tonio Kruger, cœur consumé par l'envie, par la jalousie, par le désir d'aimer. Sur son portable, l'inconnu de Lübeck avait commencé à composer le numéro de téléphone en France, quand il entendit le pas de son épouse écraser le parquet du salon. Démarche pesante, présence insupportée. À plus tard, dit-il en remettant le billet dans la poche du cœur. À plus tard, rêvait Sonia, dont le train arrivait dans la plaine. Au retour, elle déclara à son compagnon: il y a si longtemps que tu ne me regardes plus. C'est donc que je n'existe plus pour toi. Autant se séparer. Il n'avait rien compris. Tant pis.
Insensitive I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. I just turn and stare in icy silence. What was I to say? What can you say when a love affair is over? Thank you.
Sensitive, Sting et Antonio Carlos Jobim. Un tout petit pour finir sur ces choses dans lesquelles on aime se perdre. Un récit sans titre d'Anne-Lou Steininger, extrait des Contes des jours volés aux éditions Bernard Campiche. Elle, hirondelle. Menton levé, visage clair, frappé de brève éternité. Comme si, ayant fini d'attendre et de vouloir, elle avait aboli le temps, elle contemple les hirondelles. Elle ne remarque pas qu'on lui dérobe son sac. Elle ne voit pas s'envoler son cartable et sa veste et ses chaussures. Elle ne bouge pas quand deux enfants farceurs ouvrent sa robe qui zippe et glisse sur ses épaules, sa robe rouge volée aussi, et la jambe droite, et le bras gauche, et l'autre bras, et l'autre jambe, puis les hanches jusqu'au nombril, la poitrine et ses deux seins, le ventre enfin, et puis la tête, menton levé, visage clair, jusqu'aux derniers cheveux. On lui a tout volé. Mais elle n'a pas bronché, ne s'est pas plainte, n'a pas cessé et continue de contempler les hirondelles. L'automne venant, hélas, on lui prendra aussi les hirondelles. Mais de cela, je crains qu'elle ne se remette pas.
J'ai écouté vous planter clair. Le rap, j'ai écouté vous planter clair. Pas m'en d'aime pour qui ça m'a qu'un baiser. Ça m'a pas voulu où elle était cachée. Tout souvenir que vous y connaissez. Yeah.
Mélissa Lavaux pour conclure ce dernier rêve avant la nuit. Il est temps de fermer nos livres. Marie-Claude Cudry a réalisé l'émission et Yves Ellen a choisi les chansons. Après les infos, c'est la ligne de cœur avec Stéphane Thiébaud. Excellente fin de soirée sur la première. Il est 22h, je vous souhaite de faire de doux rêves.